Et c'est l'histoire d'un fil invisible dont nous allons vous parler, un fil qui relie tous les êtres vivants entre eux depuis la nuit des temps et qui délivre un message pouvant perdurer dans les structures de la vie. Ce fil est une sorte de mémoire, une suite d'informations qui permet de regarder la nature avec de nouvelles lunettes. C'est ce fil de la vie donc que nous allons explorer avec mes invités qui lui consacrent un ouvrage chez Odile Jacob pour découvrir cette face immatérielle du vivant. Vous pouvez nous rejoindre avec vos messages et vos questions sur cette adresse, latetecarré@radiofrance.com. ou sur le compte Twitter et le Facebook de l'émission. À la une de la science, aujourd'hui un seuil record de dioxyde de carbone qui vient d'être franchi dans l'hémisphère sud. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu. Oui, la station de mesure de l'île d'Amsterdam dans l'océan Indien, l'un des endroits au monde les plus isolés des activités humaines, vient de dépasser les 400 ppm de CO2 atmosphérique, la froideur d'un chiffre aux conséquences brûlantes dans un instant.
Et c'est Stéphanie Texier qui réalise notre Tête au Carré, préparée aujourd'hui par Emmanuel Fournier avec Dylan Beiner.
La Tête au Carré, magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Voilà, nous allons donc tirer ensemble le fil invisible de la vie avec mes invités. C'est le dossier de l'émission avec Jean-Louis Dessalles et Pierre-Henri Gouillon. Bonjour.
Bonjour.
À vous deux.
Bonjour.
Pierre-Henri Gouillon, l'histoire que vous allez nous raconter tout à l'heure autour du vivant est en réalité une affaire de généalogie, on pourrait dire les choses comme ça?
On peut voir ça comme ça. Il se trouve que je suis généticien, les généalogies ça m'intéresse. La question de savoir qu'est-ce qu'on hérite de ses parents, c'est un peu ma raison d'être en termes scientifiques. Et quand on se pose cette question, qu'est-ce qu'on hérite de ses parents? Et puis, qu'est-ce qu'on hérite de ses grands-parents? Et puis, quand on remonte comme ça le fil, justement, de nos ancêtres, eh bien, on se rend compte que ce qu'on hérite, c'est pas quelque chose d'aussi évident que ça en a l'air.
Et c'est le monde vivant au sens très large, hein, on va le voir. Jean-Louis Dessalles, est-ce que le langage chez l'homme fait partie de ces fils invisibles qui constituent donc de la mémoire et de l'information, comme on va le voir également avec vous?
Oh, on peut le dire, oui. Moi, je suis informaticien, je travaille sur l'évolution, je travaille aussi sur le langage. Et effectivement, si on regarde, non pas le langage lui-même, mais les informations qui sont véhiculées à travers le temps par le langage, oui, on peut presque dire qu'elles vivent. Juste pour prendre un exemple, l'exemple des bons mots de Coluche qu'on donne parce que c'est l'anniversaire de son décès, ben, ces bons mots, pourquoi ceux-là, pourquoi pas les autres? Il y a une espèce de survie de ces informations-là, donc arriver à les suivre à travers le temps, c'est un peu suivre le fil de cette vie-là.
Voilà, ce fil, cette face immatérielle de la vie, donc avec beaucoup d'exemples dans différents domaines, comme on va le voir, avec les messages des auditeurs.
La science de l'environnement, en partenariat avec Reporter.net, le quotidien de l'écologie.
Et le taux de CO2 dans l'atmosphère qui franchit un record des plus symboliques vu depuis l'un des endroits les plus isolés du globe, la station de mesure de l'île d'Amsterdam dans l'océan Indien.
Cette station est devenue la référence au niveau mondial. L'étalon qui permet de mesurer les rejets en carbone de l'humanité.
Ici, on a un très gros pic et ça correspond au barbecue qui a été organisé pour le départ des personnes de la 59e qui vont rentrer avec vous sur le ballon de Fan.
Voilà, et cette station de recherche est l'une des deux seules stations au monde qui sert de référence pour les mesures de pollution de fond de l'atmosphère et la concentration en CO2 atmosphérique vient donc d'y dépasser les 400 ppm. Michel Ramonet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avec nous en ligne, vous êtes chercheur au CNRS et coordinateur du réseau national d'observation ICOS. Et puis dans ce studio avec nous, comme tous les lundis, Hervé Kempf pour notre partenariat avec le site Reporter. Bonjour Hervé.
Bonjour Mathieu.
Alors 400 ppm, Hervé, c'est un chiffre, mais qu'est-ce qui se cache derrière ce chiffre exactement?
Eh bien, le bouleversement de l'humanité, voilà, tout simplement. Mais revenons à la base, ppm, ça veut dire quoi? Ça veut dire partie par million. C'est une façon de mesurer les gaz dans l'atmosphère, en l'occurrence le CO2, le gaz carbonique, qui est un gaz très important à effet de serre. Et donc, on mesure 400 ppm de CO2 dans l'hémisphère sud, ça signifie 400 ppm par million. C'est l'équivalent d'un centimètre cube de CO2, si vous voulez, dans un mètre cube d'air. Alors, cette mesure est très importante. Les mesures en ont commencé à un autre endroit que celui dont on va parler, à Mauna Loa, à Hawaï, en 1957, par Charles Keeling, et donc qui a établi cette courbe qui a toujours été en progression de ppm, de concentration de gaz carbonique dans l'hémisphère nord, qui a atteint 400 ppm à Mauna Loa, à Hawaï, mais l'hémisphère sud est plus loin des sources de pollution, donc à des niveaux inférieurs. Et là, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, à l'île d'Amsterdam, dans le sud de l'océan Indien, avec la station de mesure dirigée par des scientifiques français, mais aussi dans une autre station anglo-américaine, la Halley Research Station dans l'Antarctique, on a mesuré un dépassement de 400 ppm dans l'ensemble, dans l'hémisphère sud, donc sans doute dans l'ensemble de la planète. Juste pour finir, pour bien comprendre l'importance de ces 400 ppm, d'une part, c'est un chiffre qui n'a jamais été atteint depuis plus de 800 000 ans, et ça, on le sait parce qu'on fait des carottages dans les glaces de l'Antarctique. Et par ailleurs, la référence que l'on a, c'était 280 ppm, c'était à l'époque pré-industrielle, aux alentours de 1800. Donc on est maintenant à des niveaux historiquement extrêmement élevés.
Et ça, c'est symbolique qui vient d'être franchi, Axel. Hein.
Alors oui, Michel Ramonet, concernant le réchauffement climatique global, qu'est-ce que nous dit ce chiffre précisément ?
Bonjour encore. Donc les 400 ppm à Amsterdam, comme c'était dit avant, ça montre que cette valeur effectivement a été maintenant atteinte en moyenne annuelle en tout cas sur toute la planète. Logiquement on devrait s'attendre à ce que ce soit une valeur encore plus forte, puisqu'en tenant compte des émissions de CO2 dans l'atmosphère liées aux activités humaines, on devrait avoir des taux encore plus importants. Il faut savoir qu'on émet 36 milliards de tonnes de CO2 par an dans l'atmosphère, mais l'augmentation que l'on observe très précisément dans l'atmosphère correspond à un peu moins de la moitié de cette émission de CO2 par les activités humaines. On a donc cette chance, malgré tout, que cette augmentation est moins rapide que ce qu'elle pourrait être grâce à l'absorption de carbone par des puits naturels qui sont dans les réservoirs océaniques et dans la biomasse continentale.
Ça veut dire que vous vous attendiez à franchir ce cap plus tôt ?
Disons qu'on connaît les puits de carbone continental, on connaît à l'échelle globale, on les connaît plutôt bien grâce à des mesures à long terme dans l'atmosphère, dans les océans, dans les surfaces continentales, dans les forêts, les cultures. Donc on savait qu'on allait le passer le 400 ppm. Je m'attendais plutôt en fait à ce qu'il soit passé dans quelques mois, un peu plus tard. Et on le passe un peu plus tôt que prévu, je dirais, parce que cette année, on a un taux de croissance qui sera sans doute le taux de croissance le plus fort qu'on ait jamais observé à l'île Amsterdam en 35 ans de mesure, du fait d'un épisode El Niño qui a tendance à faire en sorte que les puits de carbone dans les surfaces continentales fonctionnent moins bien du fait de sécheresses dans de grandes zones continentales tropicales, Australie, Indonésie, qui font que les écosystèmes terrestres sont moins à même d'absorber un excédent de carbone ou du fait d'incendies, par exemple en Indonésie, vont en émettre davantage dans l'atmosphère et s'ajouter ainsi aux quantités de CO2 d'origine humaine.
Michel Ramonet, ça veut dire que 400 ppm maintenant, ça devient la norme pour l'ensemble de la planète ?
Tout à fait, en moyenne annuelle, ça devient la norme, mais ça ne va pas rester dans longtemps la norme, puisque de toute façon, ça augmente de 2 à 3 ppm par an, donc la norme, elle est déjà quasiment derrière nous. On a encore quelques mois en dessous de 400 ppm au haut de l'altitude de l'hémisphère nord, puisqu'en été, la végétation absorbe du carbone, donc on a encore des valeurs légèrement plus basses pour quelques années encore, mais effectivement, le seuil de 400 ppm est passé et franchi maintenant, et on n'est pas près de le franchir dans l'autre sens.
Vous parliez des puits de carbone océaniques et atmosphériques. Comment fait-on pour mesurer leur efficacité ?
C'est un ensemble de mesures. Hein. Donc on a les mesures atmosphériques qui jouent un rôle. On a aussi des mesures océaniques. Donc on regarde les tendances. Encore une fois, ces programmes scientifiques sont basés vraiment sur des observations à long terme, des mesures précises et à très long terme, ce qui est un véritable défi. Parce que mesurer par exemple pendant 35 ans à haute précision, en continu, minute après minute, les concentrations de CO2 dans un endroit isolé comme Amsterdam, c'est un véritable défi. Mais donc on a aussi des mesures à la surface de l'océan, qui regarde la quantité de CO2 qui est absorbée par les océans ou dans les forêts, etc., par des collègues. C'est des programmes où la France est très active. Et donc, on fait le bilan comme ça à l'échelle globale avec une station. Par contre, l'objectif maintenant, pour aller au-delà de ce bilan global de carbone, c'est d'aller vers des bilans plus régionaux, essayer de comprendre quelles sont les zones responsables qui jouent un rôle dans l'absorption de carbone pour absorber un peu plus de la moitié de nos émissions humaines, encore une fois. Et pour cela, on développe un véritable réseau de mesures avec pas mal de stations, en particulier en Europe, pour notre projet qui s'appelle ICOS. Donc.
Quel est le lien, Michel Ramonet, entre ce seuil de 400 ppm et le réchauffement de la planète ? Ou pour le dire autrement, est-ce qu'on va pouvoir éviter un réchauffement de 2 degrés Celsius avec de tels taux de concentration de CO2 dans l'atmosphère ?
Les les prédictions, en fait, en utilisant un certain nombre de modèles pour le prochain siècle, au rythme actuel des émissions anthropiques, on considère qu'on a 25 ans d'émissions, que dans 25 ans, disons, au rythme actuel des émissions anthropiques, donc on devrait atteindre le réchauffement de plus de 2 degrés. Donc il est vraiment devant nous. Cela étant, on peut avoir des mauvaises surprises si le puits de carbone se mettait à fonctionner de façon moins efficace. C'est-à-dire si, face au réchauffement climatique, certaines zones de l'océan ou certaines forêts, en Amazonie ou autre, se mettaient soit à moins absorber, soit à émettre davantage de carbone.
Ouais. Vous parliez tout à l'heure d'installer plus de stations de mesure. Est-ce que c'est aussi pour vérifier que les pays tiennent leurs promesses en termes de réduction des émissions de CO2?
Effectivement, le développement de notre réseau relativement dense en Europe a deux objectifs. Hein. L'un, surveiller l'évolution à long terme des puits de carbone naturels. Et deux, aller vers un système de vérification. Il faut bien savoir qu'actuellement, les émissions anthropiques sont sur la déclaration des pays. Il n'y a pas de vérification indépendante. Donc on vise effectivement à mettre en place un réseau qui permettra d'apporter des éléments de vérification des déclarations de chaque pays.
Allez, avec Anne, pour terminer très vite.
Les émissions de CO2 humaines sont de 36 milliards de tonnes chaque année, et pourtant elles stagnent, elles se stabilisent comme en 2015. Est-ce que cette stabilisation va permettre de faire diminuer le seuil de 400 ppm?
Diminuer en dessous les 400 ppm, non, on continuera. Le système a une grande inertie, vu que la durée de vie du CO2 est de plusieurs décennies, centaines d'années. Donc, même en stabilisant au taux d'émission actuel, qui est très fort, on continue à augmenter à un rythme élevé.
Merci beaucoup Michel Ramonet pour ces précisions. Merci Hervé Kempf. On retrouve ces informations sur le site de Reporter, reporter.net. Et puis à demain, Axel Villard.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, le lien supposé entre autisme et microbiote intestinal fait un pas supplémentaire. Une étude parue cette semaine dans la revue Cell montre qu'en l'absence de certaines bactéries dans leurs intestins, des souris semblent souffrir de symptômes similaires à l'autisme. Cette carence a été démontrée par des chercheurs de Houston aux États-Unis qui ont soumis 60 souris femelles enceintes à une alimentation très riche en graisses saturées. Un mois après leur naissance, les souriceaux ont montré des déficits de comportement sociaux, des symptômes qui ont progressivement disparu après une transplantation des fameuses bactéries manquantes. En est-il de même chez l'humain? Rien ne le prouve, mais cette découverte laisse présager en tout cas de nouveaux champs de recherche. Plus de 90% des espèces de mammifères auraient disparu à cause du même astéroïde qui a anéanti les dinosaures il y a 66 millions d'années. C'est bien plus qu'on ne le pensait. La grande diversité des mammifères après l'extinction laissait croire qu'ils avaient été épargnés, mais des chercheurs de l'université de Bath en Angleterre constatent que les mammifères ont été bien plus touchés que la plupart des autres groupes d'animaux, mais ils ont récupéré rapidement après la crise et se sont mieux adaptés, ce qui les a conduits à s'imposer dans le règne animal. Et puis on salue HO3, ce petit corps céleste épais de quelques dizaines de mètres seulement et qui se trouve en orbite autour de notre planète. La NASA a détecté ce gros caillou grâce au télescope de l'université d'Hawaï, chargé de repérer des objets géocroiseurs qui menacent de rentrer en collision avec la Terre. Pas de panique cependant, les calculs montrent que HO3 est l'un des quasi-satellites les plus stables qu'a connu la planète. Le corps céleste tiendra donc compagnie à notre Lune pendant plusieurs siècles avant de repartir pour de nouvelles aventures dans le lointain cosmos. Allez, le fil de la vie, la face immatérielle du vivant, c'est le dossier de la tête au carré dans un instant, après Paul Simon. Yeah.
this funky bar, and I stepped outside and smoked myself a J. And when I come back to the room, everybody just seemed to move, and I turned my amp up loud and I began to play. And it was late in the evening, and I blew that room away.
Late in the evening, Paul Simon à l'instant.
La tête au carré, l'actualité des sciences sur France Inter.
Le fil de la vie, la face immatérielle du vivant. C'est un livre publié chez Odile Jacob et c'est le dossier de la tête au carré cet après-midi avec deux de ses auteurs, Jean-Louis de Sales et Pierre-Henri Gouillon. Jean-Louis de Sales, vous êtes chercheur en intelligence artificielle et en sciences cognitives, maître de conférences à Paris-Saclay et vous travaillez notamment sur le langage et son évolution. Pierre-Henri Gouillon, vous êtes justement spécialiste de l'évolution, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle, membre de l'Académie Européenne des Sciences et le troisième auteur de ce livre est Cédric Gaucherel. On le cite, qui est chercheur de recherche à l'INRA. Et donc, les auditeurs nous rejoignent avec les messages et les questions. Alors, sur la nouvelle adresse, hein, depuis la semaine dernière, latèteaucarré@radiofrance.com. Et puis, bien sûr, sur Twitter et sur Facebook. Pierre-Henri Gouillon, trois scientifiques, donc, dans trois disciplines différentes, pour réfléchir ensemble à une seule et même question. Qu'est-ce qui perdure dans le vivant lorsque les êtres vivants meurent? C'est ça, en gros, la question?
On peut le voir comme ça, effectivement. Ou aussi, qu'est-ce qui fait que le vivant a cette structure-là? Au fond, qu'est-ce que c'est que du vivant?
Ouais. Parce que... C'est tout simple, comme question. Voilà, hein. C'est tellement simple. Il faut quand même être au moins trois pour en discuter.
Bah, on a différents domaines. On en a discuté dans d'autres instants. C'est une question qui a des côtés tout à fait appliqués. Par exemple, j'appartiens à une société que j'aime beaucoup, qui est la société d'exobiologie. C'est les gens qui s'occupent de la vie en dehors de la Terre. Mm-hmm. Et j'aime beaucoup cette science parce que c'est un endroit où on n'est pas embêté par les données.
C'est sûr.
On n'est pas très, donc on n'étudie pas les extraterrestres puisqu'on n'en a pas. Donc on imagine.
On n'en a pas la preuve en tout cas pour l'instant.
Oui, puis de toute façon on peut pas les étudier quoi. Donc ce qu'on peut faire, c'est essayer d'imaginer et de se demander comment on reconnaîtrait un être vivant si on débarquait sur une autre planète. Voilà. Ouais. Et ça, c'est une question qui pour moi peut pas se résoudre sans réfléchir à ce que ça transmet le vivant. Ouais.
Et finalement, tous les scientifiques se posent exactement la même question. C'est tout ce qui sous-tend la vie.
En tout cas, s'ils se posent la même question, ils y répondent pas de la même façon.
Ouais.
Ça, c'est sûr. Ouais. Parce que notre science occidentale est très très fondée sur la matière. La matière et l'énergie. Tout le monde est vu par les scientifiques, et moi y compris, hein, comme un ensemble d'entités matérielles qui la matière peut se transformer en énergie, ça on le sait avec Einstein, etc. Donc matière et énergie, c'est une seule et même entité. Et on peut regarder le monde entier de cette façon-là. Mais quand on regarde le vivant, il manque quelque chose quand on regarde ça comme ça. Et donc, il faut rajouter une dimension en plus.
C'est un peu la matière noire du vivant, un petit peu. Hein. C'est cette face obscure.
Sauf qu'on n'a pas de problème de masse, justement. Voilà.
Mais c'est toute l'immatérialité, au fond, de la vie, Jean-Louis de Sales, qui vous intéresse là dans cet ouvrage.
Oui, le caractère immatériel, bon, on y est habitué dans d'autres cas. Par exemple, là, on a un livre. Quand vous parlez du livre, vous ne parlez pas de l'objet matériel, vous ne parlez pas des traces d'encre sur le papier, vous parlez,
de ce qu'il me raconte.
J'espère, des idées qui sont
c'est
dedans.
Ça, voilà. C'est ça.
Pour les informaticiens, c'est un peu pareil. Quand l'ordinateur se comporte mal, on ne pense pas à aller regarder dans les circuits, d'aller regarder si les électrons ont pris vers la droite ou vers la gauche. On regarde quelle est l'erreur dans le programme. Le programme, il est immatériel. C'est une entité beaucoup plus informationnelle. Et donc... il est parfaitement légitime de regarder dans le vivant les entités matérielles. C'est quand même, heureusement que les médecins font ça. Hein. Mais ce qu'on défend dans le livre, c'est une vision alternative qui a toute sa validité dès qu'on prend du recul, surtout du recul dans le temps.
Oui.
si on regarde sur le temps long, eh bien, les organismes disparaissent. Nous mourons. Les espèces elles-mêmes sont des entités mal définies qui elles-mêmes disparaissent. En revanche, il y a des informations que nous transportons qui nous viennent, qui nous sont en commun avec la mouche, donc qui datent de plusieurs centaines de millions d'années.
Qui perdurent et qui sont transmises. Voilà.
Donc, alors, on parle bien sûr de génétique, mais pas seulement. On parle d'informations, on a parlé du langage humain tout à l'heure, et avec notre collègue Cédric Gaucherel, on parle d'informations dans les systèmes écologiques. Et c'est là que j'ai le plus appris. Hein, Bon, ça décoiffe au début un petit peu d'avoir cette approche-là informationnelle de l'écologie. On pense aux systèmes écologiques comme étant des systèmes avec beaucoup de rétroaction, d'influence. Et il nous dit, mais non, on peut avoir un autre regard, toujours pareil sur le temps long, où on s'aperçoit qu'un un écosystème, eh bien, peut gérer de l'information. Et de le décrire comme ça, évidemment, il faut pas jeter toute la théorie des écosystèmes et la remplacer par une autre, mais elle est complémentaire. C'est un autre regard qui nous semble indispensable. Ouais. C'est vraiment donc ce qu'on essaie de défendre comme dans un manifeste à travers ce livre.
Mais alors, c'est quoi? Vous parlez d'une vision alternative, Pierre-Henri Gouillon, mais c'est une proposition que vous faites ou finalement, dans l'histoire de la science, on avait déjà cette façon de voir le vivant autrement avec cette abstraction-là dont on va parler?
Non, on n'est pas les premiers à proposer une vision de cet ordre-là, sauf que ça a pris diverses formes et puis ça n'a pas été toujours aussi explicite. On peut dire que Richard Dawkins, qui est un biologiste anglais assez célèbre, dans un livre tout aussi célèbre qui s'appelle « Le gène égoïste », lançait ce genre d'idée. Ce qui est intéressant, c'est que quand il parle de gène égoïste, eh bien, il parle donc des gènes qui se transmettent, qui seraient les organismes ne seraient que des véhicules transmettant les gènes, mais il définit encore les gènes de façon matérielle, comme un morceau d'ADN. Dans une deuxième partie du livre, d'ailleurs, il définit un analogue des gènes dans l'information culturelle qu'il appelle les mèmes. Et c'est intéressant de voir que ce mot mème est devenu un mot maintenant très courant dans la blogosphère. Il y a que les gens de ma génération qui le connaissent pas, mais les jeunes le connaissent tous. Personne sait que ça vient d'un généticien, évidemment. Mais cette idée, donc, qu'il existe. Alors là, il est défini, lui, de façon informationnelle. Donc, une information qui se transmet, qui se reproduit à travers les cerveaux pour le mème, à travers les organismes pour les gènes, à travers les écosystèmes. Et ça, c'est une vision globale qui, pour le moment, est pas extrêmement développée. Ouais. Et d'ailleurs, il faut bien dire qu'elle peut sentir le soufre pour certains de nos collègues.
Pourquoi? Exactement. Parce que on se repose plus du tout sur la matérialité des choses, en fait, c'est ça?
Voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Quand on n'est plus dans le matériel, ouais. Évidemment, on est bien d'accord que l'information est toujours portée par de la matière. Mais il n'empêche qu'elle s'en abstrait un petit peu, on va y revenir. Et ça, c'est pas si facile que ça à admettre pour tout le monde.
Jean-Louis Dossal, donc ça veut dire qu'on peut analyser le monde vivant, en termes d'information. Hein. C'est ce mot qui va revenir souvent dans notre discussion.
Et ça donne un petit peu le vertige, parce que on en vient à dire, sans sourciller dans le livre, que ce qui est vivant, c'est de nature informationnelle. Or, c'est très choquant, parce que nous sommes tous trois, les trois auteurs, nous sommes matérialistes, nous étudions la science à travers la matière. Mais quand on en vient à définir ce qui est vivant, prenons l'exemple de la théorie darwinienne, la théorie de la sélection naturelle. Qu'est-ce qu'elle va sélectionner à long terme? Encore une fois, pas les individus, puisqu'ils vont mourir. Ce qui subsiste à long terme, et là, sa fameuse définition de la lutte pour la survie, c'est en aucun cas celle des individus. D'ailleurs, souvent, les individus vont se mettre à coopérer. Ouais. Ils ne sont pas du tout concernés par la lutte pour la survie. En revanche, la lutte pour la survie concerne les informations qui passent à travers nous. Et là, c'est une lutte, on pourrait dire, sans merci. Heureusement, elle concerne des entités abstraites. Alors, ça peut être choquant de dire ça, mais c'est la seule définition cohérente qu'on peut avoir de la sélection naturelle.
Ouais. Alors, donnez-nous un exemple, parce que vous démarrez dans le livre, enfin, un des tout premiers exemples, c'est le chat et la souris. Le chat qui aperçoit une souris. Donc, évidemment, on va se dire, ce sont ces neurones qui le mettent en alerte et qui vont faire que ce chat a envie d'aller croquer cette souris. Alors, justement, il y a une notion d'information très précise, justement, pour parler de cette transmission immatérielle.
Oui, on trouve la même idée qu'avec les électrons dans l'ordinateur. Quand un chat voit une souris et se met en comportement de capture, On peut décrire le phénomène en suivant les influx nerveux de la rétine jusqu'en cortex visuel et voir qu'il y a des synchronisations neuronales qui vont aller jusqu'aux muscles. Et quand on fait tout ça, est-ce qu'on a expliqué le phénomène? La réponse est non. Ouais. On a donné des explications matérielles,
biologiques,
mais avec vraiment le nez dans le guidon, sans comprendre le phénomène lui-même, qui est qu'il y a eu une détection de la part du chat il y a sans doute un détecteur qui est une population de neurones particulière, un attracteur neuronal, ouais. qui en se déclenchant, ce déclenchement peut être associé à la vue d'une souris, que ce soit une souris dans telle ou telle position, le mardi ou le mercredi, on peut dire que ça sera la même population neuronale. Et donc, à ce moment-là, on va pouvoir parler d'information parce que, on le dit dans ces termes dans le livre, il y a eu lecture. Information n'existe que si elle est lue. Et donc, on peut dire que le cerveau du chat a lu la présence d'une souris, et c'est pour cela qu'on peut parler authentiquement d'une information.
Et quelle que soit la période où on rencontre ce chat, parce qu'évidemment, c'est une transmission, alors qui va évoluer, l'information va évoluer aussi au fil du temps, mais est-ce qu'on peut pas parler de mémoire, Pierre-Henri Gouillon, tout simplement, au lieu d'employer ce mot d'information? Parce que alors, c'est une mémoire transmise, ça c'est bien immatériel, pour le coup.
La mémoire, c'est une partie de l'histoire, puisque la mémoire, c'est le stockage d'informations durables, et effectivement, je pense que une difficulté qu'on a, c'est qu'il y a eu beaucoup de métaphores qui ont été utilisées. Et malheureusement, d'ailleurs, la métaphore informatique, à l'idée d'un programme génétique, ouais. est une métaphore assez critiquée et à juste titre. Parce qu'au fond, un programme informatique, dans l'esprit de la plupart des gens en tout cas, c'est quelque chose qui fait toujours la même chose et qui est parfaitement déterminé. Or,
l'information va évoluer.
La lecture dont on parlait ouais. à l'instant, cette mémoire, eh bien cette mémoire, quand le chat va voir la souris, on disait tout à l'heure, ça dépend pas du jour, mais si, quand même un petit peu, si jamais il est totalement repu et fatigué, il va regarder la souris d'un œil et puis il va s'occuper d'autre chose. Donc il y a aussi un environnement. Il y a trois éléments dans toute lecture d'information. Il y a le message qui est lu, il y a le système qui lit le message, et il y a le résultat qui va dépendre de l'environnement. Si jamais vous n'avez pas à la fois un environnement, un lecteur et un message, il n'y a pas possibilité de faire quelque chose avec une information.
Et nous sommes sur le fil de la vie cet après-midi dans La Tête au Carré avec Pierre-Henri Gouillon et Jean-Louis Dessalles. Et vos messages, latèteaucarré@radiofrance.fr pour nous retrouver.
Rien qui ne porte un nom, tienne une promesse. On me voit disparaître, que tu disparaisses. Je ne sais plus, je ne sais plus où est passé le sens. Je ne sais plus, je ne veux plus de cette différence qui s'est mise entre nous. Avril pleure des larmes antiques, la fin d'un amour. Je ne sais plus, tu ne sais plus que faire de mes silences. Je ne sais plus, je ne peux plus, tu ne veux plus de cette
Cette indifférence qui s'est mise en
Messia Avril et Thierry Dupin pour la programmation musicale de notre Tête au Carré. Jean-Louis de Sales, Pierre-Henri Gouillon, mes invités pour parler de ce livre chez Odile Jacob, Le fil de la vie, la face immatérielle du vivant. On employait ce mot, donc l'information qui circule, qui constitue le fil de la vie, on peut dire les choses comme ça, Jean-Louis de Sales.
Qui constitue le fil de la vie, oui. Ouais. C'est-à-dire que si on suit le vivant à très très long terme, on s'aperçoit que la seule continuité qui existe, donc si on d'où la métaphore du fil, ouais, c'est celle de l'information. Tout le reste disparaît. Et pourtant, donc c'est immatériel. Et donc pourtant, la science n'existe que parce qu'elle étudie la matière. Donc il a un petit hiatus qui fait frissonner un petit peu.
Alors justement, pour prendre un exemple et illustrer votre sujet, l'exemple d'une création tout droit sortie d'un laboratoire, celle du biologiste Craig Venter, c'était en 2010.
Une découverte comparable à l'invention de l'imprimerie par Gutenberg. Pour le monde scientifique, pas de doute, la création d'une bactérie artificielle par l'équipe du généticien américain John Craig Venter est une révolution. L'aventure a commencé il y a 2 ans. Première étape, ces scientifiques ont d'abord généré synthétiquement en laboratoire le génome d'une bactérie courante. Un génome simple car il n'est composé que d'un seul chromosome. Deuxième étape, publiée aujourd'hui dans la revue Science, ce génome bactérien fabriqué chimiquement a été réinjecté dans une autre bactérie, vidée elle de son code génétique. Cette nouvelle cellule s'est alors reproduite et a formé des colonies d'une nouvelle bactérie de synthèse, la première forme de vie artificielle.
Je pense que c'est une étape cruciale dans le domaine de la biologie de synthèse. Il n'y aura pas un seul domaine de la vie qui ne sera pas influencé par cette nouvelle technologie.
Craig Venter, donc en 2010. Pierre-Henri Gouillon, qu'est-ce qui s'est passé pour la première fois donc avec cet exemple précis au niveau de l'information, s'il vous plaît?
Eh bien, on a tricoté un ADN à partir d'une séquence qui était dans un ordinateur. Moi, ça me plaît bien parce que ça illustre un des éléments importants de l'information telle qu'on essaye de la définir. L'information, elle dépend donc d'un codage et puis d'un système de lecture et puis tout ça va dépendre d'un environnement. Mais le codage lui-même, eh bien, il peut changer de support matériel sans que ça change vraiment l'information. Vous savez bien que le même texte peut être sur du papier, peut être à la limite appris par cœur dans nos neurones, on ne sait pas bien comment, ouais, mais ça marche aussi dans un ordinateur, etc. Donc le support matériel est nécessaire à l'information, mais l'information a une certaine indépendance par rapport à ce support matériel. Pour l'information culturelle, donc on le savait, on en a l'habitude, pour l'information génétique, c'était la première fois que c'était fait, c'est-à-dire qu'une information était partie d'un ordinateur et devenait un chromosome, donc synthétisé à partir de ce qu'il y avait dans l'ordinateur. Et quand on remet ce chromosome dans une bactérie, ben ça marche. Alors c'est pas un chromosome vraiment standard, hein. Ils ont rajouté des petits trucs dedans, un petit poème, etc. Il y avait des problèmes de droits de propriété vis-à-vis de ce qui a été rajouté. Donc, mais voilà, il y a donc là c'est cette chose extraordinaire de voir de l'information passer d'un support matériel à un autre et continuer à fonctionner comme ça.
Là, on est vraiment un tournant.
Il faut bien
dans
dire
le de la biologie ou pas.
Bah, on n'a pas synthétisé une bactérie, hein, contrairement à ce qui a été dit et ouais, encore tout à l'heure, on vient de l'entendre. La bactérie elle-même n'a pas été synthétisée. Tout compte fait, la partie informationnelle du vivant, l'ADN, techniquement, c'est beaucoup plus facile à changer que la partie non informationnelle pure, c'est-à-dire le système de lecture. La bactérie, elle lit l'ADN. Et elle est beaucoup plus complexe que l'ADN lui-même. Un texte, tout compte fait, si vous regardez un livre, bah c'est pas très compliqué sur le plan technique. Vous avez des symboles qui suivent et puis point barre. C'est pas bien complexe. Ce qui est complexe, c'est le cerveau du lecteur et la façon dont le lecteur va lire ce livre et va faire quelque chose à partir de ça, ou va lire une partition musicale et va interpréter cette partition dans un environnement donné toujours. Ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et actuellement, si on sait synthétiser un chromosome, on sait absolument pas synthétiser une bactérie.
Ouais. Jean-Louis de Sales. Autre exemple, alors là on était dans la génétique, vous parlez, parce que vous l'illustrez vraiment avec beaucoup d'exemples très très différents, les accents par exemple. Les accents c'est aussi une illustration finalement de cette nature informationnelle. Donc on n'est pas du tout dans le support matériel, et il y a quelque chose qui passe sans qu'on sache pourquoi au fil des générations.
Alors Jean-Louis, fais-nous entendre ton accent du sud-ouest.
Alors, en fait, bon, les auditeurs sont peut-être aperçus que je parle une forme de français tout à fait pure, qui vient du sud-ouest de la France. Et donc je me suis amusé à observer que dans cet accent de chez moi, ou l'accent du sud de la France pour parler vite, il y a des règles très, très strictes. Si je dis creuser, le verbe creuser, alors me demandez pas comment on dit à Paris, mais moi je dis creuser et je ferme le e et je ferme le e, creuser. En revanche, je creuse. Ouais. Et là, je suis obligé d'ouvrir le E. Alors, je ne sais pas s'il en est de même à la maison de la radio, mais en Périgord, je vous garantis
que... Ah, mais on croise des gens qui creusent aussi.
Voilà,
ici,
on creuse.
Je peux vous dire, on creuse.
Il est impossible de dire « je creuse ». Voilà, j'ai encore la bouche qui souffre de l'avoir dit. Chez moi, on dit « je creuse ». Et cette règle est magnifique parce qu'elle ne souffre d'aucune exception. Au moins, dans la cour d'école où j'ai grandi, il y avait zéro exception.
Ça dit quoi, justement ?
Cette règle est très simple à dire. C'est-à-dire que si une syllabe ou un pied, enfin, une syllabe est ouverte, c'est-à-dire ne se termine pas par une consonne, comme creux, je suis obligé de fermer la voyelle. Donc, syllabe fermée, voyelle ouverte, syllabe ouverte, voyelle fermée. Donc, c'est creux, syllabe ouverte, voyelle fermée, creuse, syllabe fermée, voyelle ouverte. Oui, cette règle très simple, où est-elle?
Cette information? On ne vous l'a pas appris, ça?
On ne me l'a pas appris. Hein? Personne n'en est conscient, à part les linguistes. La question, c'est d'où vient-elle et comment vit-elle? Est-ce que c'est une information? Et la réponse, c'est, on peut dire oui, c'est-à-dire où est-elle? Un linguiste dira, elle est dans la population. Ce qui n'a pas de sens matériel.
Oui, c'est un peu abstrait.
On pourrait dire elle est située dans les cerveaux des locuteurs.
Ouais.
C'est-à-dire quelque part dans mon cerveau, d'une manière qu'on ne connaît pas, cette règle est de manière plus ou moins câblée, puisque les enfants l'attrapent presque instantanément, avec quelques exemples. Et donc c'est une information qui fait partie du fil de la vie parce qu'elle va se transmettre à travers les générations et avec modification. Certainement, il y a des accents qui se créent, des accents qui se modifient. Cette règle-là, elle a la vie dure, pour autant qu'on sache. C'est-à-dire que les grands-parents avaient la même façon de parler que les petits-enfants ou les arrière-petits-enfants.
L'information, Pierre-Henri Gouillon, elle suit les mêmes processus que l'évolution, en fait?
C'est-à-dire que l'évolution... Quand on pense à l'évolution, on se rend compte que on a nécessairement des parents et que ces parents ont eux-mêmes nécessairement des parents. Il n'y a pas de génération spontanée, sauf au tout début, mais ça a dû prendre un bon moment avant de fabriquer le premier être vivant. Une fois que ça a été fait, il n'y en a pas eu de nouveau qui soit apparu. Donc c'est un peu extraordinaire de penser que tous les êtres vivants sur Terre ont le même ancêtre, si on revient suffisamment longtemps à l'avance, on l'a appelé Lucas hein, pour le dernier, c'est pas le premier, hein, celui-là c'est le dernier ancêtre commun à tout le monde, et ce dernier ancêtre commun à tout le monde, eh bien il nous a tous donné naissance, et nous sommes tous reliés à lui par ce fil informationnel, évidemment on n'en a pas reçu un seul atome, hein, mais on en a reçu des structures, et si je vais un peu plus près, vous voyez, je peux regarder l'histoire des vers et puis regardez qu'à un moment, il y avait des poissons cartilagineux qui peuplaient les mers, et puis que certains sont restés comme ça, puis ça a donné les requins actuels, et puis d'autres ont inventé l'os, et puis ça a fait une carpe, et puis parmi ceux qui ont inventé l'os, il y a eu des batraciens qui sont sortis des eaux, et puis nous-mêmes, nous sommes sortis de cette lignée-là. Et quand je regarde cet ancêtre commun aux requins et à moi, eh bien, je me rends compte que tout ce que j'ai hérité de lui, c'est de l'information. Et ça, c'est des choses qu'on pouvait, au fond, pas tellement penser avant d'être capable de regarder les génomes. Mais aujourd'hui, si je regarde un génome de requin et si je regarde un génome humain, je trouve des tas de choses communes qui viennent du fait qu'on vient du même ancêtre. Et donc, je suis habitué aujourd'hui en tant que biologiste à penser ces informations issues de cet ancêtre commun entre différentes lignées, éventuellement à des centaines de millions d'années d'écart.
Je pense à un autre exemple quand je vous entends citer celui-ci, Pierre-Henri Gouillon, c'est Néandertal par exemple, avec la découverte de partie de notre génome, 3-4%, donc ça c'est très récent aussi.
Certainement certains plus que d'autres.
C'est Sven Tepebe qui nous a révélé ça il y a vraiment quelques années à peine, mais là on se dit c'est de l'ADN néandertalien qu'on a en nous, donc c'est quelque chose de très concret, c'est au-delà de l'information.
Non, c'est pas de l'ADN, si jamais je définis l'ADN comme une molécule, la molécule elle-même qui était dans Néandertal, elle n'est pas dans nous. Ce qui est dans nous, c'est l'agencement des nucléotides, c'est la séquence d'ADN, et la molécule elle-même, ça fait belle lurette qu'elle a disparu, la molécule qui était dans les Néandertal. Justement, hein, c'est comme si vous disiez, j'ai reçu ce livre de chez Odile Jacob, effectivement...
C'est une façon de citer Odile Jacob, bravo, bien joué, hein. Malin celui-là.
Mais si jamais vous le photocopiez, ce qui n'est pas recommandé, eh bien, au bout d'un moment, vous aurez toujours le même livre, mais aucune molécule ne viendra plus de chez Odile Jacob. Donc c'est ça le truc qui est important dans l'information, c'est qu'elle se transforme, mais elle se stocke sur des supports aussi stables et aussi amorphes que possible. De l'ADN, c'est une molécule qui fout rien. Elle est d'une mollesse, cette molécule, elle bouge pas. Elle est d'une stabilité incroyable, à tel point que des informaticiens sont en train de se demander si ça serait pas une bonne manière de garder les données informatiques.
Absolument, pendant des centaines de milliers d'années.
Parce que c'est bien plus stable que nos CD, nos disques durs et nos
puces. On en parlait il n'y a pas longtemps, oui.
Voilà, donc vous voyez, l'analogie est plus qu'une analogie. Ouais. Actuellement, ça devient effectivement le même matériau.
Donc c'est presque très décevant, parce que quand on se dit qu'on a en nous quelques gènes néandertaliens, en fait, c'est quoi? C'est la poussière.
C'est pas décevant du tout. C'est comme si jamais on se dit.
C'est pas palpable, en tout cas.
Si on se dit qu'on a aussi de la culture latine dans notre culture, c'est pas quelle proportion, ou de la culture celte, il y en a moins de culture celte que de culture native, mais on doit avoir un peu des deux. Eh bien, évidemment, ce qu'on a dans notre culture, c'est des éléments informationnels qui se sont transmis au cours des temps.
Voilà, c'est donc juste une autre façon de voir les choses, en réalité.
Est-ce que Néandertal a disparu? Si on voit Néandertal comme le personnage qu'on a l'habitude de représenter, sans doute. En revanche, on peut inverser la perspective et se dire il y a des informations qui étaient portées par cette espèce Néandertal qui ont réussi à sauter du navire avant qu'il coule et qui ont trouvé le moyen de sauter la barrière d'espèce pour aller chez nous et survivre. Évidemment, chacun d'entre nous porte entre 1 à 3% d'ADN. Voilà. Mais si on met bout à bout, c'est David Reich qui l'a dit en 2013, c'est une publication qui montre que si on met bout à bout tout ce que nous avons de Néandertal, ça finit par faire au moins 20%, peut-être 40%, peut-être davantage. Donc au minimum 20% de Néandertal, de l'information qui était chez Néandertal, qui a réussi à survivre en nous prenant comme bateau de sauvetage.
On aura l'occasion d'en parler mercredi, puisque ce sera une spéciale Néandertal avec Jean-Jacques Hublin, qui sera notre invité. Allez, dernière partie de cette discussion dans un instant.
How will I know? How will I know?
James Blake.
Une abeille éclaireuse a découvert une nouvelle source de nectar dont elle ramène un échantillon. Sa danse renseigne les autres sur l'abondance de la nourriture. La danse de l'abeille indique également, en fonction des oscillations abdominales et des vibrations émises, la direction et la distance du butin à récolter.
Voilà la danse des abeilles. Lorsqu'on parle du fil de la vie et de la face immatérielle du vivant, comme vous le faites dans ce livre chez Odile Jacob, Jean-Louis de Sales, eh bien on peut évoquer effectivement le langage des abeilles qui, comme d'ailleurs les êtres humains, sont capables de communiquer avec donc des entités immatérielles. Hein. On l'a dans cette transmission des informations qu'elle se livre.
C'est tout à fait spectaculaire parce que, comme les humains, elles communiquent à propos de choses qui sont absentes. Donc elles communiquent à propos de sources de nourriture qui ne sont ni ici ni maintenant. Enfin, peut-être ici, mais enfin, qui sont maintenant, mais pas ici. Donc, elles renvoient leurs sœurs à aller butiner à des centaines de mètres. Comment? En faisant dansant. Donc, c'est un petit peu spectaculaire. Donc, on savait que les abeilles communiquaient depuis l'Antiquité. En revanche, il a fallu attendre 1947 pour que Carl von Frisch craque le code des abeilles. Il a eu le prix Nobel en 1973, je crois, en même temps que Konrad Lorenz. Et donc parce qu'il a compris quelle était, comment fonctionnait cette danse. L'abeille forme, enfin danse en frétillant. Mais ce qui est spectaculaire, c'est que l'axe de la danse reproduit la direction à prendre avec le soleil. Alors comment, puisque on est complètement à l'intérieur de la ruche? Bien parce que l'axe de la danse fait un angle avec la verticale, et cet angle, c'est celui de l'envol qu'on doit prendre, enfin la direction de la source de nourriture par rapport à celle du soleil. Donc il y a un petit aspect arbitraire dans cette communication. Et en plus, la manière dont elle frétille de l'abdomen donne des indications sur la distance. Enfin, on a un authentique langage. Là.
Ouais. Mais Pierre-Henri Gouillon, est-ce que ce langage des abeilles, là, si on les prend par exemple dans 10 000 ans, il va beaucoup évoluer ou pas?
Ah ça, alors ne me demandez pas ça, j'en sais rien.
Non mais est-ce qu'un langage, est-ce qu'une information évolue?
C'est très curieux. Les informations évoluent, certes, et elles évoluent sous l'action du fait qu'il y a des modifications qui vont se produire pour des raisons diverses. Ça peut être simplement par des hasards, par le fait que quelqu'un s'est trompé en disant quelque chose et puis que cette erreur a été reproduite. Alors ça, c'est typiquement la mutation au sens classique du terme en biologie. Hein. Il y a une erreur dans la copie de l'ADN et puis cette erreur va être reproduite et puis c'est elle qui va finalement s'implanter, soit par hasard, soit parce qu'elle est sélectionnée, c'est pas le problème. En tout cas, l'information évolue. Puis il y a des choses qui évoluent peu ou pas. Il y a une chose qui a évolué incroyablement peu, c'est le code génétique. Hein, L'ADN est lu sur la base, hein, la manière dont l'ADN est lu par les êtres vivants, que ce soit une bactérie ou un humain, eh bien la plupart des êtres vivants lisent l'ADN de la même façon. C'est-à-dire on les lit 3 par 3 et les mots de 3 lettres ont la même signification pour une bactérie et pour nous en termes d'acides aminés. Ça c'est vraiment étonnant, c'est un peu comme si tous les humains parlaient la même langue depuis plusieurs milliards d'années, on en est loin. Donc les langages humains ont évolué infiniment plus vite que le langage de l'ADN en tout cas.
Jean-Louis de Sales, il y a un autre exemple, alors là très étonnant aussi, c'est celui des paysages. Alors les paysages ou les sentiers par exemple, pour être encore plus précis, ça veut dire que la structure d'un paysage peut constituer aussi en soi une information, par exemple, pour des espèces animales.
Oui, c'est notre collègue Cédric Gaucherel qui insiste beaucoup là-dessus. Donc, bien sûr qu'il y a un support de mémoire. Hein, quand on imagine une forêt avec des sentiers, ces sentiers perdurent à travers le temps, on se dit qu'il y a une mémoire. Ça ne suffit pas pour faire une information. Pour faire une information, il faut que cette information soit lue. Elle est créée par le phénomène de lecture. Oui. Et donc un promeneur va lire le réseau de sentiers s'il est habitué. On peut le dire aussi d'une espèce qui amène sa population dans un écosystème. Il y a peut-être un réseau de sentiers qui lui convient ou pas. Donc cette idée, c'est que dès qu'il y a mémoire, dès qu'il y a lecture, donc il y a et dès qu'il y a toute l'opération de lecture, il faut pas l'oublier, s'opère dans un contexte, c'est-à-dire dans un environnement. Donc c'est ce qu'a dit Pierre-Henri tout à l'heure. Il y a un message, un décodeur, un environnement. Et bien là, on peut parler d'information. On peut parler d'information de manière utile, c'est-à-dire que on va regarder. Alors ça serait merveilleux de voir de transformation à travers le temps des réseaux de sentiers dans le même bout de forêt. Peut-être qu'on a voilà. Donc l'idée c'est que il va avoir cette information va perdurer dans le temps bien mieux que beaucoup plus longtemps que les gens, les promeneurs qui les empruntent.
Ouais.
Mais cette idée c'est que il peut derrière y avoir quasiment une sorte de langage du point de vue de l'observateur.
Ouais.
Donc c'est cette
et l'observateur peut être le loup aussi par exemple.
Ah oui, alors là vous faites attention à l'exemple allusion à l'exemple ouais. qu'on prend sur le loup de Yellowstone, c'est un exemple très célèbre. Tout le monde a entendu parler du parc de Yellowstone dans lequel il y avait des loups mais ils ont été exterminés, le dernier loup je crois a été tué en 1926.
Ouais.
Et il y a eu des transformations profondes qui ont toutes été documentées, parce que c'est un des parcs nationaux les plus connus aux États-Unis. Et on a vu que, par exemple, les castors, il y avait beaucoup moins de castors. Alors, quel rapport entre les loups et les castors ? Ne croyez pas une seconde que les castors chassent les loups. Mais les castors, les loups devaient chasser les jeunes des élans. Donc, en absence de loups, les élans ont pullulé. Les élans mangent les pousses des jeunes saules et les castors utilisent les saules pour faire des barrages. Donc, vous voyez, le lien la causalité est assez lointaine, mais on a toutes ces transformations. Ce qui est spectaculaire, c'est que à la fin du siècle dernier, donc dans les années 90, on a réintroduit le loup et on s'est aperçu que tout s'est remis en simplifiant, tout s'est remis comme avant, c'est-à-dire que les castors se sont remis à faire des barrages et donc ça veut dire que le système écologique avait gardé une mémoire, donc une information avait perduré à travers le temps, et cette information, on ne peut pas la décrire en termes d'individu, il faut la regarder à beaucoup plus long terme.
Ouais.
Et donc l'espèce loup, d'une certaine manière, a lu la structure de l'écosystème et a, avec tous les guillemets qu'il faut, a décidé qu'elle pouvait réimplanter dans Yellowstone.
Pierre-Henri Gouillon, il y a un mot qu'on n'a pas employé encore mais qui est cité, c'est l'épigénétique. On parlait d'environnement tout à l'heure.
Oui, comme je disais tout à l'heure, l'information elle doit être stockée sur un support stable qui ne bouge pas, l'ADN, le papier. Or, donc justement, une information, ça fait jamais rien. Soit un message, ça fait rien. Ce qui va se passer, c'est qu'un lecteur va lire ce message et que cette lecture va permettre de fabriquer une action. Donc, quand vous avez une recette de tarte aux pommes, vous avez un cuisinier qui va faire la tarte aux pommes et la tarte aux pommes, elle dépendra de la recette, du cuisinier et de l'environnement dans lequel ça se passe. Eh bien, un être vivant, c'est fabriqué par la lecture d'un message génétique. Il va y avoir le message génétique, il va y avoir l'environnement, mais il va y avoir aussi le lecteur. Le lecteur, c'est nous. Nous sommes tout le temps en train de lire notre ADN et nous possédons des informations qui sont à nous, qui sont pas directement écrites dans l'ADN. Et ces informations, c'est elles qu'on appelle épigénétique. Donc, si on veut comprendre l'épigénétique, il faut absolument regarder le monde vivant.
Avec les lunettes que vous nous
avec
proposez.
Avec les lunettes informationnelles voilà. Et comprendre ce fil de la vie.
Ouais, on aurait pu parler du langage humain également, Jean-Louis de Sales. Quelques mots, puisqu'il nous reste 1 minute 30 pour l'évoquer quand même, parce que ça montre aussi la variété des thèmes que vous évoquez et que vous abordez dans ce livre.
Alors, il ne faut jamais dire que l'espèce humaine est à part. Quand même, on a envie de dire que l'espèce humaine est l'espèce championne du monde de l'information. Nous sommes des spécialistes de l'information. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, dans le livre, on essaie de donner des définitions, les définitions les plus récentes de l'information, celles qui sont le plus utiles pour nous. Et effectivement, nous sommes hypersensibles. Les êtres humains véhiculent des informations, Tout à l'heure, par exemple, l'exemple du franchissement du seuil des 400 particules par million pour le CO2, c'est une information. Je suis prêt à parier que si ça avait été 397 particules par million, vous n'en auriez pas fait une information. Donc là, il y a un aspect qui, pour un humain, donc la simplicité du chiffre 400, ça déclenche le réflexe d'information. Donc, il faut comprendre ce qu'est une information pour l'être humain et après, et c'est ce que nous avons fait dans le livre, essayer d'étendre ça à savoir si ce qui est une information pour un observateur qui n'est pas humain.
Ouais.
Voilà. Donc, l'information, l'idée, c'est qu'elle est dans la nature, même si il n'y a pas d'être humain pour l'observer, parce que l'être humain est à son échelle, donc l'échelle microscopique, l'ADN, c'est beaucoup trop petit pour nous, les écosystèmes, c'est beaucoup trop gros pour nous, mais ça gère quand même des informations. C'est un peu cette idée, en extrapolant ce qu'était une information pour l'être humain, on est arrivé à décrire l'information dans la nature.
Et je suis sûr que si un jour on trouve des extraterrestres, ils seront aussi des transmetteurs d'informations, sinon ils ne seront pas vivants.
Voilà, pour terminer sur un petit mot d'exobiologie, merci beaucoup à tous les deux, Jean-Louis de Sales, Pierre-Henri Gouillon avec Cédric Gaucherel. Ça s'appelle donc « Le fil de la vie, la face immatérielle du vivant » et ce livre est paru il y a quelques semaines à peine chez Odile Jacob. Merci beaucoup d'être venu nous en parler cet après-midi.